Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, puisque le temps approche de quitter ces lieux de pouvoir avant la cérémonie des adieux qui aura lieu, vous le savez, la semaine prochaine, peut-être pouvons-nous jeter un rapide coup d'œil en arrière depuis l'image qui fut pour nous la porte d'entrée de cette réflexion sur depuis la première séance, cette vue du château de Meun-sur-Yèvre, l'une des 17 résidences princières de Jean de Berry, dont on voit ici les très riches heures peintes par les frères de Limbourg. Qu'avons-nous vu depuis ? Je veux dire à la fois depuis lors et depuis ici, en s'éloignant de ce moment initial et en maintenant le point d'observation de notre cartographie pragmatique de l'éloquence architecturale. Bref résumé des chapitres précédents en images. D'abord, et ce fut la deuxième séance, nous avons vu qu'un lieu de pouvoir est ce qui nous fait lever les yeux vers ce qui nous regarde et qu'on pouvait appeler mono-architectural cette appropriation souveraine de l'espace de la domination. Ensuite, et ce fut la troisième leçon, nous avons vu que les peintres et les architectes du XVe siècle croyaient avoir trouvé, dans la mise en beauté du pouvoir dont Alberti fut le théoricien, le moyen de rendre cette domination socialement acceptable, puisque la beauté est censée décourager les envieux et conjurer la violence politique, ce qui, on l'a vu aussi, ne marche pas à tous les coups. C'est à partir de là qu'on a pu développer une anthropologie politique de l'emplacement, de l'espacement et du déplacement, où des dispositions, des incorporations répondent au geste architectural du lieu de pouvoir pour en construire le sens social. Cette configuration monumentale jouait de la distance et de la défiance. Et c'était la quatrième leçon où l'on vit le pouvoir prendre ses distances et accuser l'écart, cherchant la juste mesure de la séparation des corps. Rapporté non pas à l'espace, comme on l'a vu à Milan, mais au temps, comme on l'a vu aussi à Milan, cette logique politique revenait au contraire à investir les lieux du passé, quitte, dans le cas du passage entre l'urbanisme communal à l'urbanisme seigneurial, à réaffecter au présent de la glorification seigneuriale les traces de la mémoire communale. Et ce fut la cinquième leçon. Dès lors se posait un dilemme politique. Si l'on adoptait le point de vue des gouvernés qui subissent l'emprise de cette configuration monumentale, comment prendre les Bastilles ? Telle était la question que posait la sixième leçon qui montrait comment la destruction d'un lieu de pouvoir pouvait en faire un lieu de mémoire de la tyrannie. Pour échapper à ce devenir funeste, les princes pouvaient alors être tentés par l'échappée belle, soit qu'ils refusaient désormais de jouer le jeu du métier de régner, cherchant comme Louis XI à prendre quelques tangentes, soit qu'il trouvait refuge dans les lointains, tenté par l'imaginaire, et tout cela constituait la septième leçon. On comprenait dès lors qu'il ne suffisait pas de faire tomber les forteresses pour prendre le pouvoir, mais bien d'occuper les lieux, ce qui signifie, comme on a tenté de le dire lors de la huitième leçon, non seulement de se rassembler pour exposer sa propre vulnérabilité, mais de contester, au sens propre, les pouvoirs en place en les disloquant, c'est-à-dire en les éloignant de leur lieu propre. Tout se ramenait décidément à une scène de parole. Et c'est pourquoi je proposais lors de la neuvième séance une histoire vocale de la notion d'hétérotopie, confiant dans la puissance foucauldienne à renverser ce rapport entre le corps et le monde, passant de l'utopie à l'hétérotopie. Ce passage nous amenait la semaine dernière, et c'était la dixième heure, à envisager les espaces autres du gouvernement, c'est-à-dire la capacité qu'a un corps parlant à faire lieu depuis l'endroit où s'énonce sa parole. Et c'est ainsi que l'on vit Louis IX jouer l'arbre contre le palais. C'était incontestablement un point de bascule, et nous nous retrouvions en somme au lieu même où nous avions décidé, lors de la première séance, de faire de l'arbre peint par les frères Limbourg le pivot de l'image, là où elle s'échappe de sa propre signification, sans trop savoir si nous nous situions à la place de l'ours qui y trouve refuge ou du lion qui attend sa chute. Quelle est notre place, ou plutôt quel rôle allons-nous jouer dans cette fable du pouvoir, faisant l'ours ou faisant le lion? En tout cas, ce tournant végétal ne nous permettait pas seulement d'envisager une histoire naturelle des lieux de pouvoir, comme ici le château de Vincennes et sa forêt, dont on avait vu lorsqu'on étudiait effectivement, lorsqu'on évoquait les très riches heures du duc de Berry, qu'il désignait à la fois et le berceau et le tombeau du prince. Elle nous attirait, au fond, ce tournant végétal nous attirait à prendre le large en une démarche que Michel Foucault appelait de ses vœux hétérotopiques, larguant les amarres qui nous maintenaient à quai de l'analyse du seul bâti monumental pour considérer le répertoire naturel comme une configuration monumentale dont la scène englobe désormais la diversité des mondes et des vivants. En ce sens, l'arbre ne nous cachait pas la forêt, mais nous permettait de lever les yeux, une fois de plus, vers le point haut, souverain, désolé, de la tentation du Christ, ces hauteurs où se hisse le pouvoir, et d'envisager ce qu'on pourrait appeler les caractères anthropologiques fondamentaux d'une géographie symbolique de la domination. Si on cherche à la définir au plus large, en y relevant les traits les plus généraux ou les plus généreusement partagés dans les cultures lettrées des sociétés médiévales en Occident, mais pas seulement, on peut prendre pour point de départ le récit primordial que constitue le Kalila et Dimna, recueil de contes et de fables enchâssés où des animaux font la leçon à l'homme sur la bonne manière de se gouverner de façon juste et équilibrée. On estime aujourd'hui qu'il s'agit d'un livre d'origine indienne procédant du Panchatantra, où ce sont des chakals qui délivrent des conseils en forme d'apologue à un prince qui a besoin d'un guide, Raja, pour exercer son pouvoir. Sans doute a-t-il été rédigé en sanskrit au IVe siècle, puis traduit en langue pahlavi deux siècles plus tard, et c'est donc depuis le monde iranien qu'il est traduit en arabe à l'époque abbasside, au IIe siècle de l'Égir, par Abdullah ibn al-Mukaffa. Né en Iran, son nom perse est Rouzbé, il se convertit à l'islam et devient le premier grand prosateur arabe de l'Adab. Il est exécuté à Bassora, dans l'actuel Irak, en 756, sur ordre du calife al-Mansour. Et c'est cette version arabe qui est à l'origine de toute la tradition du Kalila et Dimna, que vous pouvez lire dans la magnifique traduction d'André Miquel. Elle fut d'abord traduite en syriaque, en grec, au XIe siècle, en persan, en hébreu, au XIIe siècle, et c'est d'ailleurs cette version hébraïque du rabbin Joël qui est traduite en latin par Jean de Capoue en 1263 et qui alimente une tradition européenne. Mais la grande tradition européenne, elle est essentiellement dominée par la première traduction en espagnol, 10 ans plus tôt, et directement de l'arabe, donc en 1252, à la demande du roi de Castille et de Léon, Alphonse X le Sage, dans sa grande politique de constitution doctrinale des règles de gouvernement. Et c'est à partir d'elle, hein, de cette traduction castillane, que Raymond de Béziers compose sa traduction latine en 1313 à l'intention des enfants de Philippe le Bel. Et l'on connaît ensuite des traductions italiennes, anglaises, allemandes. La traduction allemande est l'un des premiers livres qui ne soit pas la Bible, sortant des presses de Gutenberg en 1483. Signalons enfin, mais vous l'avez compris, qu'une vingtaine des fables de La Fontaine sont inspirées du Kalila et d'Himna, que l'on connaît alors sous le titre « Les fables de Bitpaille ». Ce qu'on y lit, c'est que le pouvoir est toujours un lieu élevé et escarpé, qui nous attire, mais qui est hostile, que l'on espère toujours y manger des fruits goûteux, mais qu'il faut craindre de s'y faire dévorer par des bêtes cruelles et féroces. Une montagne à gravir, donc, quand on sait que la culture médiévale fait de la montagne un locus horridus, un lieu à la fois effrayant et attirant, parce que c'est le lieu de la tentation. Voilà ce qu'on lit dans la version castillane. Kalila dit « Si tel est ce que tu as à cœur, je veux te faire craindre le service du roi pour le grand danger qu'il comporte. » Et les sages avaient une similitude pour le roi et sa privenza, les comparant à un mont très haut où se trouvent les fruits les plus savoureux et où demeurent les bêtes féroces. Y grimper est chose très ardue et rester dans le bien qui s'y trouve, plus amer et difficile encore. On comprend que l'inquiétude quant à la capacité de se maintenir au service du roi et d'y maintenir la bonne distance de la privanza est spécifiquement castillane. Et François Foronda a montré comment ce moteur métaphorique de la similitude, semeranza, était d'une certaine manière le nerf de l'argumentation. Le roi est comme une sierra et ça anime, au fond, toute la littérature sapiensale du XIIIe siècle. Mais il a montré aussi comment cette similitude peut se retourner en dénonciation de la tyrannie lorsque se dérègle ce rapport entre la distance attirante et l'hostilité dosée. Vous vous souvenez que Alfonso de Palencia a décrit le palais de Ségovie au XVe siècle, dont la façade devient le visage de la tyrannie de Henri IV, roi fuyant, insaisissable, en son palais, qui prend la forme d'une montagne et qui préfère les solitudes boisées à la compagnie des hommes. Voilà ce qu'on lit dans ces décades, en 1467, dans ces lieux transis de brume, de neige et de glace, Henri, d'une impitoyable avarice, refusait aux hommes ce que la nature leur prodiguait avec largesse, si bien que quiconque voulait couper du bois s'exposait à de lourdes sanctions ou, par crainte du châtiment, devait s'exposer à la rigueur d'un froid mortel. On retrouve là tous les thèmes qu'on avait déjà rencontrés la semaine dernière. Et le texte de décrire de manière la manière dont le tyran réserve à son seul usage, l'usage privé de ses mignons et de leurs appétits sexuels, eh bien, la rude et froide chaînée de ces bêtes sauvages. Mais, jouant de l'inversion classique de la machine tyrannique qui finit toujours par travailler à sa propre perte, l'humaniste Alfonso de Palencia dit aussi cet ensauvagement de l'espace princier où, je cite, « les cerfs et les sangliers devinrent si hardis qu'ils dévastèrent les fruits à leur portée ». Ainsi se dérègle l'apologue de Kalila et d'Himna, adressant à qui veut grimper la montagne du pouvoir, à la fois la promesse des beaux fruits, tout en l'avertissant de la menace des bêtes sauvages. Ici, ce sont les bêtes qui mangent les fruits et ce palais en forme de forêt, devient le château noir de la fable. On en vit bien d'autres semblables, évidemment, dans l'histoire européenne, dans la forêt de Transylvanie, où en ce même XVe siècle, le prince de Valachie, le voïvode Vlad III Tepes, dit l'Empaleur, qu'on surnommait aussi Dracul, ancêtre de Dracula, faisait de ses châteaux perchés les sombres abîmes de la cruauté, et ce thème terrifique parcourt évidemment tout l'imaginaire européen jusqu'aux fantaisies gothiques du romantisme noir. Mais on remarquera au passage que cette mythologie se laisse fréquemment hanter par des motifs arabo-persans et que dès qu'il s'agit effectivement de dénoncer, par exemple, la mollesse sexuelle ou la perversion des conduites amoureuses, eh bien, le thème du harem perché n'est jamais loin. On pense au souvenir de la forteresse d'Alamout sur la rive méridionale de la mer Caspienne, au nord-ouest de l'Iran actuel. Alamout, dont le nom signifie en perse non pas le nid d'aigle, mais la leçon de l'aigle, ce que voit l'aigle et ce qu'il sait en voyant de loin. C'est un bastion stratégique de l'ancien empire perse, investi au XIe siècle par Hassan ibn al-Saba, que les Occidentaux appelaient le vieux de la montagne. C'était un prédicateur de la branche chiite ismaélienne des Nizarites, qui fonda l'ordre militaire et religieux des assassins. Durant les croisades, le titre de vieux de la montagne était porté par d'autres chefs nizarites qui trouvaient refuge sur des pitons rocheux en Syrie, entre Latakié et Hama, qui pratiquaient donc ce que l'on pouvait appeler l'assassinat de précision, comme le raconte terrifié le chroniqueur Guillaume de Tyr, lorsque Conrad de Montferrat, seigneur de Tyr et roi de Jérusalem, en fit les frais en 1192. Donc, il suffit en somme de trouver un piton rocheux, de se dire vieux de la montagne, pour endosser ce rôle. Ainsi, Rachid al-Din Dinan, qui gouvernait en Syrie depuis la forteresse de Masyaf, et dont Joinville, justement, relate la rencontre des émissaires avec Louis IX. C'est que ce personnage du vieux de la montagne est un rôle, là encore, que l'on peut désormais endosser et qui signifie pour tout prince éclairé ou illuminé un sage qui construit le paradis sur terre ou un chef de secte qui gouverne par l'emprise des paradis artificiels que suscite l'usage de la drogue. Ainsi pénètre-t-il le registre de la fiction par l'entremise des chansons de troubadours, d'abord, des contes orientaux, mais aussi évidemment des Mille et une nuits et du Décaméron, et jusqu'aux réécritures des récits bouddhiques que l'Occident connaît sous le nom de Barlaam et Josaphat. On suit ensuite cet imaginaire jusqu'au roman Alamout, super célèbre en 1938, du Slovène Vladimir Bartol, qui alimente ensuite toute une mystique populaire du terrorisme et de la violence politique jusqu'à Corto Maltese et la Maison Dorée de Samarcande, ainsi qu'évidemment Assassin's Creed aujourd'hui. Or, tout cet imaginaire trouve, sans doute, sa matrice narrative dans la description par Marco Polo de cette contrée qu'il appelle moulette, donc altération d'Alamout, mais aussi d'un mot arabe, moulhid, qui veut dire hérétique, où les jardins secrets de la citadelle réservés aux initiés promettent les merveilles de l'au-delà à qui saura combattre les infidèles. Dans Le devisement du monde, cette description suit immédiatement, et c'est intéressant dans l'économie narrative, celle de l'arbre seul que les chrétiens appellent l'arbre sec. Il s'agit d'un arbre isolé dans le désert, ce qu'on appellerait, ce qu'on a appelé la semaine dernière un arbre remarquable, un arbre souverain, un arbre isolé dans le désert au nord-est du Khorassan, qui se serait dressé à l'endroit exact où Darius, le grand roi fut vaincu par Alexandre le Grand et dont on dit aussi qu'il s'est desséché le jour de la crucifixion de Jésus et ne reverdira qu'après la reconquête des lieux saints. Et c'est ensuite, après avoir décrit cet arbre, que Marco Polo décrit la montagne et le jardin du vieux de la montagne, gardé par un château baigné de 4 fleuves de vin, de miel, de lait et d'eau, ce jardin, je cite, « semblable au paradis que Mahomet avait promis aux musulmans et qui permet au chef des nazirites d'exercer sa toute-puissance sur la secte des assassins. » Faut-il en conclure que la montagne est anthropologiquement, structurellement, dans ce répertoire naturel du théâtre du monde que je cherche à esquisser devant vous, le sommet du pouvoir absolu sur les hommes, leurs rêves et leurs corps désirants. On pourrait ainsi faire le tour du monde avec ce motif politique de la base et du sommet et évoquer les montagnes sacrées de l'Empire Khmer, comme le Phnom Kulen, au pied duquel coule le Kalspin, fleuve sacré qui est la réplique du Gange et qui vient se jeter dans le lac Tonké Lap, qui borde le site d'Angkor, alimentant son système élaboré de canaux, de douves et de réservoirs. Et là, les temples sont évidemment des répliques architecturales de cette montagne sacrée, et voilà pourquoi on les appelle des temples montagnes. Lorsque Jayavarman VII, donc né avant 1150 et mort sans doute en 1218, fait édifier cette ville dans la ville qu'est Angkor Thom, il use de ce répertoire symbolique, et lorsqu'on est à l'ombre du bâillon, il est impossible de ne pas ressentir, physiquement, de ne pas être saisi par cette forêt de regards, car du haut des 54 tours, des visages sculptés vous observent, vous sourient et vous dominent. Le lieu de pouvoir par excellence serait donc ici. On ne peut le dire aussi nettement, car ce qui met en échec toute tentative d'une anthropologie structurale du répertoire naturel des lieux de pouvoir, c'est que tout y est ambivalent, que tout y est susceptible d'opérer un retournement hétérotopique, justement, en espace autre. Ainsi de la montagne, qui peut apparaître chez certains auteurs comme un refuge de la société contre l'État, celle que pense le grand anthropologue anarchiste Pierre Clastres. C'est d'ailleurs en s'inspirant de cette tradition de philosophie politique que James Scott écrivit en 2009 son grand livre traduit en 2013 sous le titre « Zomia » ou « L'art de ne pas être gouverné ». Le terme « Zomia » signifie « gens de la montagne » dans plusieurs langues tibéto-birmanes et désigne un vaste espace transnational de 2,5 millions de kilomètres carrés à cheval sur 6 États d'Asie du Sud-Est, Birmanie, Chine, Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam, 100 millions d'habitants qui vivent sur ces hautes terres, et James Scott, qui en retrace l'histoire millénaire, qui est celle, dit-il, d'une lutte opiniâtre pour échapper à l'emprise de l'État. La Zomia est donc un effet d'État. Ce n'est pas un manque, un vide, un raté, un blanc sur la carte, un retard dans le développement. Non, c'est le résultat d'un choix continu, difficile, opiniâtre, collectif, évidemment réversible, celui du refus d'État. Alors sans doute s'agit-il d'une en grande partie d'une fiction politique, et voilà pourquoi j'en avais proposé une lecture critique ici même dans mon cours de 2019 qui explorait dans le sillage de cette conception elle-même foucauldienne de la fiction politique comme au fond fictionnalisation d'une politique à venir, la notion d'expérience politique, et notamment celle qui consiste à fuir la communauté. Pourquoi ? Parce que, au fond, et ça c'est dans James Scott, mais c'est dans beaucoup d'auteurs politiques, dès qu'il y a des montagnes, il y a une possibilité de fuite. La Zomia est peuplée d'une communauté de fugitifs. Et voilà pourquoi, et là je cite James Scott dans un article paru en 2001 sous le titre « La montagne et la liberté », depuis longtemps déjà, écrit-il, je cherche à comprendre pourquoi l'État est hostile aux gens qui bougent. Les États du sud-est asiatique ne parviennent pas eux-mêmes à lutter contre cette logique centripète. Les royaumes agraires et esclavagistes étaient en proie au double mouvement, à la fois d'épuisement de leurs ressources humaines par la fuite vers les montagnes d'une part et la traite des captifs d'autre part, opérée par les États corsaires du littoral malais. Donc, au fond, le pouvoir tente de marquer ces populations par le tatouage, justement, tout ce dont parle Foucault dans le corps utopique, mais tout fuit. Ainsi se constituent des zones de non-État, à l'image d'autres populations montagnardes et flottantes dans l'histoire du monde, comme les Pachtounes ou les Cosaques. Et ces derniers, on le sait, n'étaient ni plus ni moins qu'une communauté de serfs marrons venus de toute la Russie d'Europe vers les frontières de l'Empire pour échapper à leurs conditions. Donc le modèle, c'est bien celui des Indiens marrons d'Amérique, la liberté étant la condition qu'on s'invente dans les cas désespérés en situation d'esclavage. Retenons en tout cas ceci, l'arme suprême des révoltés, qui demeure le déguerpissement, c'est-à-dire non pas la fuite individuelle, le sauve qui peut, mais bien la conduite collective dans le cadre d'une coalition d'habitants d'un domaine féodal. Dans le Japon médiéval, on appelle ça « faire iki ». Ça, c'est ce qu'a montré Katsumato Shizuo dans un livre majeur sur les coalitions paysannes et les ligues pendant le XIIe et XIIIe siècle japonais. Lorsqu'on lit, par exemple, dans les sources japonaises que les paysans coalisés ont entrepris de tirer, étaler les bambous, il faut entendre qu'ils ont couvert de broussailles ou de feuilles de bambou les entrées des maisons, mais aussi les champs, mais aussi chemins qui mènent aux hauteurs où ils fuient. Et l'obstacle tactique, ici, se conjugue à la dimension religieuse, car les branches de bambou sont utilisées comme réceptacles pour accueillir les divinités, donc échapper à l'emprise de l'État pour bloquer l'accès aux ressources. Telle est la principale hantise des seigneurs eux-mêmes qui, en Europe comme ailleurs, sont tout le temps des entrepreneurs de regroupement de population. Et c'est là où on retrouve finalement maxime de Walter Benjamin qu'on avait mis en exergue de ce cours, « Vivre à l'ombre du château ». Que serait un lieu de pouvoir si personne ne vivait à l'ombre du château ? Comme l'écrit une chronique malaise du XVIIIe siècle, il est aisé pour un sujet de trouver un seigneur, mais beaucoup plus difficile pour un seigneur de trouver un sujet. Dès lors, ce qui est en jeu, ce n'est pas le rapport qui s'établit entre un lieu et un pouvoir, mais le rapport de pouvoir qui se joue dans la mise en tension des lieux. C'est de cette manière dynamique que l'on doit envisager ce que j'appelle ici le répertoire naturel des lieux de pouvoir comme des rôles, répertoire au sens théâtral, comme des rôles à endosser afin que puisse se jouer de la base au sommet le théâtre du pouvoir. Lisons, pour s'en convaincre, un texte très célèbre, la lettre dédicatoire de Machiavel à Laurent de Médicis le Jeune, à qui il adresse, entre 1515 et 1516, son opuscule De Principatibus. Un texte, précise-t-il, qu'il n'a ni orné ni empli d'amples clausules ou de mots empoulés et magnifiques ou de quelque autre séduction et ornement, et qui n'est rien d'autre qu'un petit volume rassemblant, je cite encore, une longue expérience des choses modernes et une continuelle lecture des anciens. Il sait bien, Machiavel, qu'il est plutôt d'usage d'offrir au prince des chevaux, des armes ou des draps d'or et semblables ornements dignes de leur grandeur. Mais lui, Machiavel, n'est bon qu'à ça. écrire pour aller droit à la vérité des choses et dire les choses du politique. Bref, cette lettre est une excusatio classique qui, comme il est d'usage rhétorique, exprime son ambition, et une ambition folle en fait, aller droit à la vérité de la chose sous le masque d'une apparente modestie. Nous sommes là aussi au théâtre du pouvoir, puisque dans son texte « Façonner le peuple », repris dans son recueil d'essais sur Machiavel qui s'appelle « Néanmoins », Carlo Ginzburg attirait l'attention, là vous avez la fameuse sculpture par Michel-Ange dans la sacristie de San Lorenzo du mausolée de Laurent le Jeune, duc d'Urbino, donc le dédicataire du prince, et vous voyez peut-être que son coude repose sur un bloc taillé assez étonnant qui s'effile en un profil d'animal hybride, mi-renard, mi-lion. Et Carlo Ginzburg remarque ce détail qui renvoie pour lui au fameux chapitre 18 du Prince où Machiavel conseille au prince de faire la bête, ou plutôt d'user de la bête, usar la bestia, selon la nécessité, pour être tantôt renard, tantôt lion. Il faut donc être renard pour connaître les raies, c'est-à-dire les pièges, pour sortir des pièges, et lion pour effrayer les loups. Et on retrouve exactement ce même balancement, qui est un balancement, en fait, vous voyez, du répertoire théâtral, dans le passage qui nous arrête ici, et où je voulais arriver, le passage, justement, clé de la lettre dédicatoire du prince. Et je ne veux pas que l'on impute à la présomption qu'un homme de bas et infime état ait la hardiesse d'examiner les gouvernements des princes et leur donner des règles. En effet, de même que ceux qui dessinent les pays se placent en bas, dans la plaine, pour considérer la nature des monts et des lieux élevés, et que, pour considérer celle des lieux d'en bas, ils se placent en haut, sur les monts, semblablement. Pour connaître bien la nature des peuples, il faut être prince. Et pour connaître bien celle des princes, il convient d'être du peuple. Ce perspectivisme fonde ce que Sandro Landi appelle le regard de Machiavel, qui est une disposition cognitive à la connaissance à distance. Et Machiavel lui-même l'exprime fort bien à la fin de son poème de la deuxième décennale, où il reproche à ceux qui, le visage altier avec leur sceptre et leur couronne, ne voient pas ça. Je cite « Votre avidité présente vous aveugle, sur vos yeux met un voile, tel que vous ne voyez pas les choses de loin. » C'est cette métaphore de la plaine et de la montagne, c'est pas qu'il vaut mieux être en bas ou en haut, c'est qu'il faut être en bas pour voir le haut, en haut pour voir le bas. Pourquoi ? Parce que tout savoir politique est un savoir de loin. Si on est dedans, on ne voit pas. Et Carlo Ginzburg a également, toujours lui, suggéré dans son essai « Distance et perspective », deux métaphores, repris en français dans son recueil « À distance », 9 essais sur le point de vue en histoire, que Machiavel était là, en somme, le disciple de Léonard de Vinci. Après tout, le premier dessin connu, daté de Léonard, 5 août 1473, jour de la fête de Sainte-Marie-des-Neiges, présente un paysage de la vallée de l'Arnaud depuis ce point de vue haut où il est, écrit-il, souverainement heureux. J'avais, pour ma part, tenté de suivre cette piste de Ginzburg dans un livre intitulé « Léonard et Machiavel » et l'intuition était renforcée depuis par une étude de Romain Descendres sur la métaphore de l'arpenteur et du peintre, démontrant que lorsque Machiavel écrit « Ceux qui dessinent les pays, coloro che disegnano e paesi », il convient de comprendre en même temps ceux qui dessinent les paysages et ceux qui dessinent les pays. Entendez, ceux qui enlèvent les plans. Donc, à la fois les peintres et les cartographes. Et Léonard est évidemment à la fois l'un et l'autre. Mais l'essentiel est de comprendre que cette métaphore du haut et du bas, de la proximité et de la distance, permet de fonder non seulement une phénoménologie de la perception des rapports de force, mais une adéquation entre le savoir politique et la capacité à voir de loin. Dès lors, c'est l'ensemble du répertoire naturel des lieux de pouvoir qui pourrait se prêter à ce type d'analyse perspectiviste. Que l'on songe par exemple à ce thème essentiel de la grotte, qui sera ensuite pris par toute la peinture européenne, baroque, qu'on appelle justement grotesque, ou de la caverne comme lieu de révélation et de refuge de l'antimonde, mais qui, parce que la solitude de l'ermite finit toujours par attirer la dévotion paradoxale de ses fidèles, peut devenir un lieu de pouvoir paradoxal, un espace autre de la domination. C'est le cas bien connu de l'ermite Pietro de Morone, moine bénédictin qui avait décidé de se retirer en 1231 dans une grotte du massif de la Magella, dans les Abruzzes. Et là, son retrait attire une foule de dévots et de disciples, impossible d'être seul au Moyen-Âge, qui deviendront les Célestins lorsque leur maître devient pape sous le nom de Célestin V en juillet 1294, avant de renoncer 5 mois plus tard. Mais on pourrait aussi choisir bien d'autres thèmes en somme, plus machiavéliens, comme celui du fleuve, métaphore du cours politique à endiguer, même si, dans ce cas, la réflexion sur le répertoire naturel des lieux de pouvoir débouche sur un autre programme, que je n'embrasserai pas ici, celui du gouvernement de la nature. Je vous propose, pour en prendre la mesure, de nous dépayser davantage en abordant les rivages d'une île qui n'est pas une utopie, une île située aux marges de l'Écoumène, une grande île plongée dans une obscurité grisâtre que viennent seulement illuminer quelques fulgurances volcaniques, une île faite de paysages immenses, de lave, de glaciers déchiquetés par des fjords escarpés. Je veux parler évidemment de l'Islande. Elle ravissait déjà les randonneurs, les amateurs de musique électronique, les lecteurs de polar. Voilà qu'elle enchante désormais les médiévistes. Pas seulement parce que ce pays si démuni est un pays de fiction qui a donné l'une des plus grandes littératures mondiales, universelles, avec les sagas sur lesquelles je vous renvoie de fort belles conférences qui ont été depuis publiées ici par Torfi Tullinius. Vous y apprendrez notamment à utiliser l'huile de requin pour s'éclairer dans la longue nuit subarctique. Vous y apprendrez à calfater des navires avec de la graisse de phoque pour aller pêcher la baleine. Vous y apprendrez surtout, parce que c'est ça qui est important, dans cette saga de la pénurie qu'est le récit islandais, à attendre que des bois de Sibérie viennent s'échouer sur les côtes afin d'élever la charpente de maisons construites en mode de terre gazonnée. Et vous y apprendrez à vous délecter de lait caillé, de raies pourries dans de grands festins. Surtout, vous y comprendrez comment les sagas sont, je l'ai dit, des épopées de la pénurie qui apprennent à survivre dans un milieu où les ressources manquent et les éruptions volcaniques menacent. Mais si l'Islande médiévale est devenue la nouvelle terre promise des médiévistes, c'est aussi parce qu'on y voit désormais l'un des lieux paradoxaux d'expérimentation politique. Et je vous renvoie sur ce point au cours de 2019, auquel je faisais allusion tout à l'heure, et notamment la séance consacrée à l'aventure politique au loin. Là encore, on peut dire que c'est une société contre l'État, pour reprendre l'expression de Pierre Clastres. Et dans un livre fondamental intitulé « L'Islande des Vikings », Jesse Bjork préfère parler de formation étatique volontairement auto-limitée, puisque en fait la colonisation de l'Islande a produit une involution vers une société fragmentaire de pionniers scandinaves. Il y a à peu près 60 000 Islandais entre le 11e et le 13e siècle qui s'adaptent au manque de ressources et qui abaissent de ce fait leur niveau de différenciation sociale. Donc, sur le plan politique, qu'est-ce que c'est que l'Islande ? Ce sont des chefs qui dominent une société de fermiers libres et propriétaires, mais des chefs dont l'autorité est de conciliation plutôt que de coercition. Ce sont, je cite Jesse Bjok, de grands entrepreneurs en procès qui étendent au loin leur réseau d'amitié, d'alliance, de fidélité contractuelle et exercent donc un pouvoir qui n'est jamais territorialisé. Donc il y a une dissémination de la population, une fragmentation du relief qui répondent. Et l'Islande des Vikings forme donc un grand village, une seule et même communauté politique. Et cette communauté politique, elle trouve à s'assembler dans, effectivement, ces paysages étonnants où, d'une certaine manière, s'invente aussi une autre voie pour, disons, la démocratie. Au XIe siècle, le chroniqueur et géographe Adam de Brême s'en étranglait d'ailleurs d'indignation. Ils n'ont d'autre roi que la loi. Durant les deux semaines de juin où il fait continuellement jour, les hommes libres, en effet, marchaient vers le lac de Thingvellir, au sud-ouest de l'île, où les ravins et les plaines de lave se transformaient pendant deux semaines seulement, en une capitale politique. Et cette capitale politique, on l'appelle l'Alsing, et elle tenait à la fois de la Cour de justice, de l'Assemblée souveraine, et de l'arène politique. C'est là où on nouait des alliances, des amitiés, on se faisait des promesses nouvelles, on en trahissait des anciennes, on se racontait des histoires et on faisait des affaires. Mais aussi, on élisait pour 3 ans celui qu'on appelait le récitateur de la loi, qui devait réciter tous les ans, de mémoire, un tiers des lois. Et puis quand il avait fini, un tiers, 2 tiers, 3 tiers, on passait à un autre. Comme le roi pour Alain Bourreau, il a pour fonction anthropologique de nommer la durée. Et c'est ainsi que Harry le savant, qui est un des auteurs de saga, date les événements par la liste des récitateurs de loi. Mais cette fonction rituelle ne lui conférait aucun pouvoir arbitraire. Et comme l'a rappelé Peter Brown dans des pages saisissantes de son essor du christianisme occidental, c'est lors d'une de ces réunions, Alting, en l'an 1000, tout rond, que les Islandais décidèrent d'abandonner leurs anciens dieux et de se convertir au christianisme. Ils le firent à leur manière, répondant à la campagne d'évangélisation agressive des évêques norvégiens par une sorte de compromis politique, laissant à chacun le soin de sacrifier aux dieux en privé s'il le voulait, ainsi qu'il l'avait déclaré, que l'avait déclaré le récitateur de la loi Thorgeir. Mais la mise en place de l'institution ecclésiale, évidemment, bouleversait lentement la société islandaise, et toute cette scène est racontée par l'Islendingabók, le livre des Islandais, rédigé vers 1132-33 par justement ce prêtre qui est devenu prêtre, Harry, le savant. Le diseur de loi se nommait alors Thorgeir, je l'ai dit, Thorgeir de Lofstan, et voilà ce qu'en dit Harry le savant. Il se coucha, étendit son manteau sur lui, resta couché toute la journée et la nuit suivante, et ne dit pas un mot. Sans doute peut-on reconnaître dans cette divination une pratique chamanique commune à l'Écosse gaélique, à la Finlande, à la Scandinavie, qui consiste à convoquer le pouvoir des esprits. Thorgeir est donc un païen à l'ancienne qui convoquant les vivants et les morts. Les vivants, ils sont venus à pied, les morts, ils viennent en songe, prend la décision de proclamer le lendemain au rocher de la loi le Christ comme nouveau Dieu de l'Atlantique Nord. Mais nous qui avons bien connu Saint-Louis sous son chêne et sa manière de faire cercle autour de sa parole ou de tirer les tapis depuis les forêts de Vincennes jusqu'à Paris, on reconnaît la scène. Il y a là aussi un tapis, il y a là un récitateur de la loi. Comment, au fond, ne pas également y reconnaître un modèle beaucoup plus commun de gouvernement par la parole, une parole efficace qui secrète et façonne son propre lieu de pouvoir. Parce que si, effectivement, dans ce paysage-là, on peut faire une assemblée souveraine, alors où est-ce qu'on pourrait ne pas la faire ? Et l'idée que ça soit le seul endroit où on a démocratiquement décidé de l'évangélisation est tout de même assez extraordinaire. Tel est donc l'Alting, ce lieu de pouvoir si particulier. Au XIXe siècle, d'ailleurs, lorsque les peintres européens le représentent, ils ramènent à eux l'étrange familiarité de cette scène lointaine, renvoyant à deux codes formels. Le premier ressort de la catégorie esthétique du sublime, puisque c'est ici la nature dans sa beauté sauvage, désolée, terrible, inhospitalière, qui fournit le décor de la prise de parole politique. Et le second ressort d'une géométrie tout aussi partagée de l'assemblée représentative, puisque ce chaos de blocs de lave a le bon goût de faire sagement hémicycle, retrouvant avec naturel, je dirais, la forme obligée de tout rassemblement politique. Je renvoie ici, sur ce point, au volume récent de Anne Davidian et Laurent Jean-Pierre, « What makes an assembly ?», ainsi qu'au volume de prochaine publication aux presses universitaires de Franche-Comté, « Les lieux de délibération, espace, décor, dispositif » sous la direction de Thomas Flum, Maxime Kaki, Jérôme Loiseau et Émilie Rosenbly. Cette histoire des formes, des lieux de délibération souveraine doit évidemment affronter, je dirais, le risque téléologique. Car pour nous, enfin je veux dire en tout cas dans la tradition française, inévitablement, dès lors qu'on songe aux lieux de délibération, on voit ceci. Le lieu commun de la délibération politique, c'est l'Assemblée révolutionnaire, ou plus précisément, le moment où, comme le rappelle Timothy Tackett, elle devient révolutionnaire. C'est-à-dire la scène originelle de la culture politique française républicaine, où 300 députés des États généraux aussi, jurent dans la salle du Jeu de Paume à Versailles, de ne plus se séparer avant de donner une constitution à la France, ils font corps. C'est-à-dire que, face au corps absent du souverain, ils imposent la présence du corps du peuple comme souveraineté nationale, ils prennent date avec eux-mêmes, avec l'avenir de la nation. Au matin, ils hésitent, au soir, ils sont devenus révolutionnaires. Et ce qui est évidemment fondamental, c'est que ce lieu de la conjuratio, la conjuration, n'a aucune qualité particulière. C'est parce qu'il trouve porte close à la salle des menus plaisirs de Versailles que les députés du tiers occupent la salle du Jeu de Paume. Il y a donc là l'histoire aussi d'un déplacement ou d'un emplacement. Enfin, on trouve la place qu'on a, ou plus exactement celle qu'on nous a refusée par effraction. Et ça, David l'a peint en figurant le vent qui s'engouffre dans les fenêtres de son fameux tableau inachevé et qui montre au fond la possibilité de corps assemblés, la possibilité qu'ont les corps assemblés à instituer le politique. C'est pas seulement un portrait de groupe qu'il lui fallait peindre, même s'il est fortement architecturé par un principe hiérarchique qui place Bailly au sommet d'une composition triangulaire, là encore, l'hémicycle et le fronton triangulaire, tout cela, ça fait d'une certaine manière, je dirais presque une fois pour toutes, les formes de l'Assemblée. C'est une gerbe d'individualité formant mémoire de l'événement en cours. Parce que, évidemment, là encore, il est indissociable de l'image qui est en train de naître et qui est d'emblée commémorative et qui devient inséparable de son lieu et qui, en plus, met le spectateur en demeure d'être présent lui aussi parce que, en fait, ce qu'on ne dit jamais, c'est que si c'est une salle du jeu de paume, ben voilà, l'ensemble, en fait, de la scène se situe dans une partie, dans la moitié seulement de la salle. Et donc, où sommes-nous ? De l'autre côté. Et donc, ça veut dire, d'une certaine manière, que l'histoire continue, qu'elle est en jeu, que nous ne la contemplons pas, que nous en sommes les contemporains. Au XVIIIe siècle, les architectes de la liberté ont fait du motif antique une des règles de base de la grammaire architecturale des espaces de représentation, au point que l'on peut se demander si cette mise en forme d'un idéal politique n'a pas conformé à son tour et par avance des gestuels, des rhétoriques, depuis l'attitude des révolutionnaires drapés dans la gravitas romaine jusqu'au discours fougueux des derniers représentants de l'éloquence républicaine. Cette transparence apparente entre la forme et la fonction politique, elle conforte une histoire de la modernité qui, de la démocratie grecque au régime contemporain de la représentation parlementaire, tire allègrement une généalogie au cordeau. Songeons à ce sujet au texte de Clémenceau sur Démosthène, analysé par Pierre Rosanvallon. Si l'histoire des assemblées médiévales permet de troubler cette analogie et d'embrouiller un peu le fil trop tendu de ces continuités, eh bien, ces nœuds n'en constituent pas moins des jalons d'une autre histoire, qui est précisément l'histoire du tiers exclu. Et du tiers exclu par, évidemment, une autre idée de la représentation. On peut, pour ce faire, d'une certaine manière, prendre au sérieux la notion même de représentation, à la fois politique et figurale, en rappelant que son sens, ces deux sens, politique et figural, se nouent étroitement dans le système des pouvoirs symboliques au Moyen-Âge. Que l'on songe, par exemple, à la représentation célèbre que le miniaturiste Jean Fouquet fait du lit de justice de Charles VII auprès du Parlement de Paris installé à Vendôme en 1458. Nul vent ici ne soulève les lourdes tentures d'un espace de représentation. Sinon, ici, tout est en place, immuablement, hiérarchiquement, agencé autour du corps souverain, cloisonné, afin de mettre à distance une foule parfaitement contenue. Cet ordre figural, où la tête représente le corps politique tout entier, mais en fait, on va le voir, c'est plus compliqué que ça, enfin, on va le voir la semaine prochaine, est régi par les lois implacables de la symétrie. Le regard du roi, souverain, est en sens propre son point de fuite ici, exactement son point de fuite, qui assemble l'espace par le système perspectif. Une telle image doit nous engager évidemment à prendre au sérieux la question de l'homologie structurale, à la manière du programme de comparatisme au loin défendu par Marcel Détienne. Y a-t-il une géométrie spécifique de la délibération ? Faut-il nécessairement faire cercle pour produire l'épiphanie émotionnelle de la volonté générale ? Pour revenir à la source d'une telle croyance dans l'efficace immédiate de la forme même du rassemblement où l'espace déciderait par avance de notre capacité à délibérer, où les lieux délibéreraient pour nous, il convient de revenir à ce fameux village Bororo analysé par Claude Lévi-Strauss, où la position des cases par rapport aux espaces centraux d'usage collectif, la maison des hommes, l'ère de la danse, détermine, j'allais dire une fois pour toutes, selon l'anthropologue, un système social qui règle la parenté, qui engage l'ensemble des conduites sociales, qui contraignent les relations de pouvoir et représentent l'ordre cosmologique. Ce type d'interprétation, où l'espace aménagé et le décalque au sol de l'idée que les sociétés se font d'elles-mêmes, eh bien, a inspiré une bonne partie de la sémiologie architecturale qui a longtemps dominé le champ des études urbaines depuis les années 70. Et vous avez bien compris que, d'une certaine manière, c'est cette tentation de l'homologie structurale des lieux de pouvoir que j'ai tenté de conjurer cette année. Parce que, au fond, il faut quand même bien expliquer la facilité avec laquelle on peut, comme je l'ai fait aujourd'hui, facilement sans doute, parcourir le théâtre du monde et retrouver au loin des familiarités déplacées. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit ça ? Qu'est-ce que ça a comme sens de partir comme ça, bien loin de notre observatoire de départ, le château de Meun-sur-Yèvre, et de prétendre s'y retrouver ? Il faut bien surtout comprendre comment se déploie cette théâtralité politique où chacun, d'une certaine manière, endosse le rôle qu'on attend de lui et où la notion même de répertoire s'entend décidément dans un sens dramatique. Et je donnerai trois exemples pour terminer, rapidement, pour saisir effectivement à la fois l'ivresse, l'attirance et aussi les dangers, comme la montagne du pouvoir, de cette pensée analogique. Premier exemple, pour commencer, simplement, l'ambassadeur Ruy González de Clavijo. Il est envoyé à la cour de Tamerlan par Henri III de Castille, après la victoire contre les Ottomans du sultan Bayezid Ier à Ankara, 1402, et cette victoire a ravivé chez les souverains occidentaux le désir de cette fameuse alliance de revers contre l'islam qui ne cesse de faire fantasmer les diplomates européens. Donc, le gars castillan, il arrive à Samarcande, comme tous les autres de marque, il croise des ambassadeurs chinois de la cour des Ming, et Clavijo fut reçu à son arrivée en septembre 1404 dans un des jardins périurbains, le Bagui d'Alguyash, le jardin qui séduit le cœur. Et si le rituel de cour obéit à un strict protocole, au fond, l'ambassadeur semble s'y conformer aisément. Sans doute parce qu'il y retrouve un rapport de distance et de défiance entre la ville et la cour qui lui est familier ou qui apparaît en tout cas immédiatement lisible dans sa structuration spatiale et sociale. Alors on pourrait objecter que là, c'est pas du jeu, parce que de toute façon, c'est de l'histoire connectée. La rencontre se fait d'autant plus aisément que les deux univers curieux qu'elle articule, la Castille et Samarcande, eh bien, au fond, ne sont pas sans connexion. Voilà, c'est précisément ce que autorise l'histoire comparée des diplomaties, des pratiques de chancellerie entre cours timouride, cours ottomane et cours mamelouk et européenne. Ça a beaucoup été étudié ces années dernières, notamment via la cour byzantine, mais aussi d'autres situations de contact, comme celle des Lusignans à Nicosie, par exemple. Et donc là, il y a un fil d'interconnaissance qui est, en tout cas, identifiable. Il est quand même un peu plus lâche dans le deuxième exemple que j'évoquerai rapidement, qui est la description également bien connue des cérémonies de cour au Mali par Ibn Battuta dans les années 1352-1353. Je m'appuie essentiellement ici sur les travaux récents d'Adrien Collet et de François-Xavier Fauvel. Donc là, Ibn Battuta, le voyageur arabe, se trouve à la cour du Mali, c'est-à-dire à un endroit pas encore totalement identifié. Il a lieu, la rencontre a lieu au Moussala, c'est-à-dire un vaste espace public qui se déploie sur le méchoir. Donc Ibn Battuta a déjà décrit des audiences de justice dans la salle à coupole, Kouba, du palais en Banco, mais là nous nous situons à l'extérieur de l'enclos palatial, et lors de la fête de rupture du jeûne, des poètes viennent devant le sultan entrer dans le creux d'un mannequin fait de plumes, écrit Ibn Battuta, qui décrit ainsi la scène. Ils se tiennent debout devant le sultan sous cette apparence ridicule et récitent leurs vers. Il m'a été dit que leur poésie est une sorte de sermon dans lequel ils rappellent au sultan que sur ce bambi sur lequel ils se trouvent, hein, le roi s'est assis, dont elles étaient, donc ils rappellent les bonnes actions de ce roi qui est assis sur le bambi. Là, on voit pas de ville, pas de domestication de l'aristocratie, pas de cour, mais une royauté africaine avertie par ses poètes. Et Ibn Battuta dit les Yéli, terme que l'on reconnaît comme malinké et que l'on peut rendre plus familièrement par griot. Donc, ils usent de masques et font advenir les divinités dans ce lieu de parole. Et là encore, on voit bien que Ibn Battuta a quelques repères pour comprendre ce qui se passe. Et au fond, il a décrit une audience, il décrit là des poètes qui avertissent un sultan en usant de masques. Il y a là un théâtre qui lui semble compréhensible. D'une certaine manière, là encore, on retrouve la manière dont, dans les cours occidentales, on fait cercle autour de la parole familière du souverain, ce groupe dont la conversation royale est à la fois le centre, le lieu et la fonction, comme l'écrit Jacques Le Goff dans son Saint-Louis. Mais je prendrai, pour terminer, un dernier exemple qui est encore plus lointain et qui met donc à l'épreuve la question de l'histoire connectée et ou globale des lieux de pouvoir. C'est l'extraordinaire récit de voyage du lettré chinois Zhu Dagan qui le mène à la cour du roi Khmer Indravarman III à Angkor en 1295-1296. Et pour le chinois, là vraiment il est loin, là il n'a plus aucun repère et il ne s'attend à rien. Et certainement pas à s'y retrouver. Et voilà ce qu'il décrit. D'abord, il décrit une procession. Dans l'espace d'une année que j'ai été retenu dans ce pays, j'ai vu le roi sortir 4 ou 5 fois. La cavalerie marchait en avant, avec les drapeaux, les bannières, les tambours, la musique. Derrière étaient les femmes du palais, au nombre de 300 à 500, vêtues de toiles peintes, avec des fleurs dans leurs cheveux, tenant à la main de grands cierges et marchant en bataillon. Quoique ce fût en plein jour, les cierges étaient allumés. Et au fond, si ce n'est la présence des éléphants, le nombre des femmes, convenons que nous ne sommes pas non plus à la lecture de ce rapport. On n'est pas plus dépaysé que notre diplomate chinois. Nous y retrouvons sans peine l'ordre processionnel, la mise en son de l'espace public, la dialectique des lueurs souveraines et de la nuit abolie, la capacité du roi et de sa suite à s'épancher à l'extérieur du palais et ce débordement cérémoniel faisant de la ville la chambre d'écho de l'expansion curiale. Et lorsque notre diplomate chinois parle de l'audience du roi, il a ce même... cette même familiarité déplacée. Écoutez-le, le roi tient son conseil 2 fois par jour. Il n'y a pas d'ordre déterminé pour l'expédition des affaires. Les grands et ceux d'entre le peuple qui souhaitent le voir, eh bien, sont assis dans une salle où ils s'asseyent eux-mêmes par terre en attendant. Quelque temps après, on entend dans l'intérieur du palais de la musique et des voix. Ceux qui sont hors de la salle sonnent de la corne pour annoncer l'arrivée du roi. Une audience, une cour, un roi, le sentiment, là encore, sans doute illusoire, d'une homologie structurale qui rend possible, pensable, la commensurabilité et tient, au fond, à la puissance des catégorisations politiques du récit savant qui vient se projeter sur la description et, au fond, ultimement, la naturaliser. Dernière citation, « Quand le conseil est fini », le roi se retourne, les 2 femmes laissent tomber les rideaux, chacun se lève et s'en va. Ainsi, quelque barbares que soient ces habitants du Midi, leur barbarie ne va pas jusqu'à ignorer ce que c'est qu'un roi. Le roi est un roi, avec le naturel du lion de la fable qui, précisait Paul Veyne, ne déploie pas sa crinière pour prouver qu'il est le roi des animaux, mais déploie sa crinière parce que c'est le roi des animaux et qu'il ne peut pas faire autre chose que faire le lion. Cette tautologie du pouvoir ne peut pourtant pas être le dernier mot de notre réflexion. Dans cette recherche de la base et du sommet, nous n'avons pas trouvé le répertoire naturel immuable des lieux de pouvoir, mais au contraire, par-delà la diversité des mondes, un théâtre du pouvoir. Alors, que va-t-il se passer? Va-t-il tomber ou pas? Eh bien, nous le saurons la semaine prochaine, mais je vous laisse un indice. Si nous sommes au théâtre, s'il y a des rideaux qui se lèvent et des rideaux qui tombent, s'il y en a qui sont bien placés et d'autres qui n'ont pas pu avoir de place et que l'on empêche de voir, même de loin, s'il y a des gens qui sont assis et ceux qui ne le sont pas, eh bien, à la semaine prochaine.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.